Bonjour à tous.
Et permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
On est dans la récréation.
On vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
Moi, j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
Pour moi, un projet, c'est un truc bien, mais je ne croyais pas que ça allait être bien comme ça.
Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
En fait, le pari, il est là et il est quand même très ambitieux.
Le micro est dans la classe.
Maë Burla.
On pourrait croire naïvement que sur les campus, les équipes pédagogiques se composent majoritairement d'enseignants-chercheurs titulaires. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les doctorantes et doctorants assurent à l'université un service d'enseignement conséquent et occupent avec les jeunes docteurs en attente de titularisation une bonne partie des postes de vacataires et d'enseignement contractuel. À eux deux, ces deux groupes représentent plus de 70% des effectifs d'enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche. La plupart des jeunes chercheuses et chercheurs en formation enseignent. Cette expérience est devenue un prérequis pour les recrutements à l'université. Cependant, leur entrée dans l'enseignement s'apparente souvent à un grand saut dans l'inconnu, la plupart n'ayant ni passé de concours d'enseignement ni reçu de formation pour enseigner. Ils et elles doivent ainsi trouver leur marque dans l'organisation formelle des enseignements à l'université et tracer leur chemin dans la pédagogie du supérieur. Ce mois-ci, le micro est dans la classe s'est invité dans les amphithéâtres de l'université Sorbonne Nouvelle à la rencontre des doctorantes et jeunes docteurs et de leurs pratiques d'enseignement, à la rencontre de leurs étudiants et étudiantes, mais aussi celle de l'équipe d'accompagnement à la pédagogie et aux projets mis en place par l'université pour tenter de les accompagner.
Est-ce que c'est super fait qu'on a à côté de la machine à café. On a plein de monde. Du coup, c'est pour de quoi, là?
Histoire de la théorie et de la critique. Et on va parler psychanalyse et marxisme.
Je m'appelle Zoé Perrier, je suis doctorante en littérature à la Sorbonne Nouvelle et chargée de cours depuis 2 ans.
Aujourd'hui, on passe à une nouvelle séquence qui concerne la théorie, qui est vraiment la théorie.
Elle est très aléatoire. Soit ils comprennent pas et ça les intéresse pas, soit ça les fait réagir parce que c'est quand même assez clivant et du coup c'est rigolo d'avoir leur retour dessus.
Avant qu'on commence, est-ce que vous avez des questions?
Non. Ok.
En plus de la thèse, je donne des cours de méthodologie universitaire et des cours plus liés au domaine de la littérature et à ma thèse. Donc j'ai fait l'ENS Lyon qui m'a préparé du coup au concours d'enseignement. Donc j'ai préparé l'agrégation. Donc théoriquement c'est un concours qui prépare à l'enseignement dans le secondaire. À côté du coup j'ai donné cours quand j'étais en M2, donc en Master 2 en 2022. Je donnais des vacations à l'université Lyon 3 et quand j'étais plus jeune, j'ai donné des cours particuliers, du tutorat, des petites choses comme ça. Voilà.
Je m'appelle Zhao Chenyang. Je suis actuellement doctorante en sciences du langage en 5e année. Et du coup, j'ai commencé à enseigner à la 3e année. Et pendant la 4e année, j'étais à terre, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Sorbonne Nouvelle. Alors, avant la thèse, j'ai eu un master à la Sorbonne Nouvelle toujours, en sciences du langage. Et avant ça, j'ai eu ma licence en Chine. Donc pas spécialement une formation qui s'approche de la pédagogie ou quelque chose comme ça.
Je m'appelle Payne Beltrand. Je suis toute jeune docteur de la Sorbonne Nouvelle. Je suis dans ma 2e année d'ATER après avoir fait un contrat doc avec mission d'enseignement pendant 3 ans. Donc c'est ma 5e année d'enseignement à la Sorbonne Nouvelle. Et moi, quand j'ai commencé, c'était le Covid. Et donc, j'ai pas pu rencontrer l'équipe de vive voix, rencontrer tout le monde. Il n'y a pas eu la réunion qu'il y a normalement, la réunion de rentrée. Et en fait, c'est juste ma directrice qui m'a dit quel serait mon service. Mais il n'y avait pas une brochure de cours ni aucun contenu. Donc c'est moi qui ai un peu tout construit, les cours de A à Z. Ce qui me donnait assez de liberté, mais ce qui était aussi un peu égarant quand même. Comme j'avais fait une prépa, je savais pas ce que c'était qu'une licence et quels étaient les acquis des étudiants, parce que j'avais des cours de L2 et des cours de L3. Donc je m'en rendais pas bien compte. Je savais même pas qu'existait une maquette carrément avec un résumé de mon cours. Donc je me suis rendu compte 2 ans plus tard qu'il y avait un résumé des cours que je donnais qui existait. Et moi, maintenant je me dis, c'est évident, mais à cette époque-là, je savais même pas que ça existait, ces choses-là. Donc j'ai fait vraiment un peu à l'aveuglette.
En général, on donne aux doctorants des cours d'introduction, de méthodologie. C'était souvent les secrétariats qui nous a proposé en fait. Et nous, on va dire, peut-être celui-là, ça ne me va pas trop. L'autre matière, je ne connais pas trop. Mais en général, ils nous donnent déjà des matières un peu en lien avec notre domaine de recherche. il n'y avait pas vraiment de formation avant vraiment l'entrée dans l'enseignement. Quand c'est la première année, quand c'est la première fois, en fait, il n'y a que les réunions avant le commencement de semestre de l'année où il y a des enseignants qui ont déjà donné ce cours. Et enfin, en fait, tous les enseignants qui s'occupent de ce cours cette année, on se réunit et le responsable de ce cours, voilà, de cette année, va expliquer en fait le programme général. Pour certains cours, il y a un syllabus, c'est-à-dire il y a un support écrit sur lequel on peut développer notre cours, notre propre cours. Mais il y a des cours où on n'a pas ça.
En fait, c'est comme une question de synthèse, c'est un peu le genre type concours. Vous auriez ce texte-là, on vous pose une question synthétique et on vous pose une question de grammaire. La question de grammaire, là, c'était l'interrogation. Donc du coup, l'interrogation, la semaine dernière, mercredi, on a vu toutes les interrogations totales. Donc c'est un peu, c'est le grand 1 en fait. Et du coup là, je demande quelles sont les interrogations partielles.
Donc les premières années, j'étais très stressée sur le contenu que j'allais leur apporter, le contenu théorique. Donc j'avais essayé de faire plein de recherches et je faisais des exercices dont j'étais pas forcément non plus convaincue moi-même et qui étaient très illustratifs des notions théoriques. Et je sentais qu'il y avait des problèmes et je sentais que j'arrivais pas à voir où est-ce que je l'ai lâché, où est-ce que ça n'allait pas. Je leur demandais à la fin des cours de me faire un petit compte-rendu de ce qui avait été bien, ce qui avait été pas bien. Et il y en avait certains qui m'avaient dit « oui, ben... Ok, on comprend avec les exercices parce que c'est parfait, ça colle parfaitement avec le contenu théorique, mais en fait, on ne sait pas trop comment on pourra réutiliser les choses dans d'autres contextes. Et en fait, ce qui a vraiment changé, ça a été, je crois que c'était la deuxième année, il y a le bureau d'accompagnement à la pédagogie et au projet qui a dit, bah voilà, on fait des formations pour, c'était une formation d'une journée pour préparer les doctorants qui allaient faire de l'enseignement l'année suivante. Moi, j'enseignais déjà, mais en fait, j'ai fait cette formation et ça m'a fait un gros déclic. Je me suis rendu compte qu'en fait, il ne fallait pas que je réfléchisse avec « Oh, il faut que je leur montre que je connais mon sujet, que je leur apporte des contenus, mais que je réfléchisse en termes d'activité. » Déjà, par exemple, je ne savais pas ce que c'était qu'un syllabus de cours. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je n'avais jamais eu de syllabus non plus. Nous, nos cours de master, on nous filait un programme de sur chaque semaine et une biblio. Et la première heure, les profs commentaient la biblio et voilà quoi. Mais donc là, il y avait comment fixer des objectifs de cours, comment... Et puis ensuite réfléchir à même ta séance de 2 heures, comment tu l'organises. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'organisais n'importe comment. Et maintenant, j'organise en me disant, bon là, même quand je suis en cours, des fois je me dis, bon là, ça fait 20 minutes que je leur explique des trucs, c'est super chiant, ils s'endorment, on va faire autre chose. Et là, je les laisse bosser 10 minutes, un quart d'heure tout seul, comme ça ils ont le temps de faire autre chose aussi, de regarder leurs messages et tout, et puis après ils s'y remettent quand ils veulent, et au moins ça leur permet de se déconnecter un peu et de se remettre ensuite dedans.
Alors, rapidement, qu'as-tu à dire là-dessus ? C'était une interrogation partielle. Qui voudrait bien nous faire la petite analyse ? Oui.
Donc c'est qu'as-tu à dire là-dessus ? Interrogation partielle, l'interrogation elle porte sur le pronom Q apostrophe. Qui est COD du verbe dire.
Très bien. Vous pouvez dire le pronom que et l'idée de mon voyer.
Que apostrophe.
Ouais, voilà. Non, mais après, ça marche. Oui. Mais en fait, je vous le dis, parce que comme vous n'allez pas faire de commentaire grammatical à l'oral, je vous dis comment vous pouvez le mettre à l'écrit devant le pronom que et l'idée. Donc, oui. Et il est COD.
Oui, bonjour, moi je m'appelle Justine Cabrero, donc je suis ingénieure pédagogique au sein du bureau d'APP, d'accompagnement à la pédagogie et au projet de l'Université Sorbonne Nouvelle. Moi j'ai comme mission d'administrer la plateforme Moodle, de faire le support aux utilisateurs et tout ce qui va être formation et accompagnement aussi, à la fois aux outils numériques pour la pédagogie et aussi formation en pédagogie universitaire.
Moi je suis Morgane Maridet, je travaille dans le même service que Justine. Je suis chargée d'accompagnement et de formation des enseignants-enseignantes, donc je suis ingénieure pédagogique. J'ai particulièrement en charge la formation à la pédagogie universitaire de tous les collègues, mais en particulier des collègues qui débutent, donc des doctorants, puisque j'organise la formation doctorale. Je suis aussi enseignante en sociologie, et voilà, je fais d'autres trucs dans la vie. Je suis présidente de l'association des accompagnateurs pédagogiques d'Île-de-France, qui s'appelle APISUP. En fait, moi j'estime qu'on commence sa carrière à l'université dès la première année du doctorat. La plupart des doctorants aujourd'hui enseignent, de toute façon c'est quelque chose qui est demandé ensuite dans le recrutement, d'avoir une expérience d'enseignement pendant le doctorat. Elle est plus ou moins conséquente en fonction des statuts dans lesquels évoluent les doctorants. Donc en fait, il y a des doctorants qui vont être financés par l'université, qu'on appelle les doctorants contractuels, actuelle, ces doctorants-là, ils enseignent pas la première année, mais ils vont, enfin à la Sorbonne Nouvelle en tout cas, mais ils vont avoir une expérience d'enseignement sur les deux autres années que dure le contrat doctoral. Pour les doctorants qui sont pas financés, souvent ils enseignent en donnant des charges de cours, parfois dès la première année, et ensuite pour terminer la thèse en sciences sociales et en lettres, langues, enfin dans les domaines de la Sorbonne Nouvelle, souvent il faut d'autres années et les doctorants peuvent soit continuer à donner des vacations, donc à être chargés de cours, soit avoir ce qu'on appelle des contrats d'ATER, d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Et ces contrats-là, ça donne 192 heures d'enseignement. Donc le même nombre d'heures d'enseignement qu'un maître de conférence ou une maîtresse de conférence. Et donc tout au long de leur parcours, ils vont être amenés à faire des cours qu'ils choisissent pas forcément. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez spécifique au public des doctorants, doctorantes. C'est que quand on commence à enseigner, régulièrement, on est amené à faire des cours que personne ne veut faire, mais aussi sur lesquels on ne maîtrise pas forcément le contenu. J'ai beaucoup de doctorants, moi, qui sont un peu inquiets et qui viennent me voir parce qu'ils vont être amenés à enseigner la méthodologie du travail universitaire, qui est un cours qu'on donne beaucoup aux doctorants, doctorantes, ou parce que eux, ils sont spécialistes de la littérature médiévale et qu'on va leur dire bah, tu vas faire le TD de littérature contemporaine. Ou alors, on va leur demander de travailler un exercice en particulier, par exemple la synthèse de documents, qu'eux, ils n'ont jamais fait, ni en tant qu'étudiants, ni dans d'autres enseignements qu'ils ont pu donner. Et donc, ça demande une capacité d'adaptation assez grande, d'autant que l'information circule assez mal sur ce qu'on peut faire en cours, sur ce qu'on doit faire aussi, parce que, par exemple, les modalités d'évaluation sont fixées en amont du début de l'année. Elles sont fixées en juin, elles sont votées par la commission de la formation et de la vie universitaire, et ça, personne ne leur dit. Je trouve qu'accompagner les doctorants, pour nous, c'est un mélange de leur faire connaître leur environnement de travail, le cadre légal de leur environnement de travail, que ce soit en termes de droit, mais aussi en termes de respect du cadre réglementaire, par exemple pour l'évaluation. Et comment est-ce que ce cadre, il va se traduire dans la pratique de classe. Bref, les doctorants, ils apprennent tout ça pendant ces années de thèse, en plus de leur travail de recherche et souvent d'autres tâches, des tâches administratives, des tâches de valorisation de la recherche, de l'organisation de colloques ou de journées d'études. Donc, la thèse est vraiment un moment de socialisation professionnelle très très intense.
Alors, quels éléments de la théorie, de définition de la théorie, vous avez relevé dans ce texte? Qu'est-ce qui vous a interrogé, vous avez pu relever? Oui.
C'est une critique.
Pour le coup, la méthodologie, je la connaissais, donc c'était facile de juste reprendre ce que moi j'avais appris, de le théoriser un petit peu. En fait, de me dire comment est-ce que moi j'en fais une, parce que pour le coup, avec l'agrégation, je pense que j'ai été. Enfin, ça m'a confirmé que j'étais qualifiée pour le fait d'en produire moi-même. Et du coup, la question, c'était comment j'en fais une, comment est-ce que je le théorise, et comment, après ce que je l'apprends, je l'enseigne en fait aux étudiants. Et la difficulté, par contre, c'était de me fonder sur des œuvres que je ne connaissais pas du tout avant de les enseigner et d'essayer de retrouver dans ces œuvres-là des passages qui étaient susceptibles d'être expliqués par des étudiants de L1 qui n'avaient pas lu l'œuvre complète. Mais ça s'est bien passé, j'ai eu des très bons retours. Par contre, je pense que c'était encore un peu difficile pour moi de stabiliser ma posture de prof. Le fait que, comme je suis jeune, que je fais jeune et que je suis assez familière dans ma manière de faire cours, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai, je trouve ça difficile de trouver l'équilibre entre créer un espace de cours sympa où on puisse discuter, où ce soit... il y a assez de mise en confiance pour qu'ils puissent participer. Et du coup, c'est compliqué de trouver l'équilibre entre cette posture-là de relative familiarité et ne pas laisser place à une connivence qui serait trompeuse. Et ça, j'ai un peu de mal à trouver l'équilibre.
Pour les étudiants, il y a toujours un groupe ou deux qui ne t'écoutent pas, qui se parlent au fond de la classe, qui viennent, qui partent comme ils veulent. Mais moi, personnellement, je ne mets pas beaucoup de discipline dans ma classe. Et je sais qu'il y a des enseignants qui font ça, qui leur disent ne pas utiliser le portable, qu'il ne faut pas parler, etc. Mais moi, dès que vous restez calme, vous ne dérangez pas les autres, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais du coup, je me souviens qu'en fait, il y avait certains étudiants qui commençaient à parler avec un volume insupportable au fond de la classe. Et moi, j'étais fâchée. Ce que j'ai fait, c'est j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de donner le cours. Et j'ai tenu la silence pendant genre 3 minutes. Et je leur montre mon visage vraiment froid comme ça. Et du coup, ça a marché. Et aussi des difficultés. Moi, en tant qu'étrangère, je sais qu'à la première rencontre, quand je rentre dans la salle, je dois vraiment établir mon autorité vite fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose...
Bah, des fois, en fait, je sentais qu'il y avait un souci et que je les avais complètement perdus. Il y a eu quelques cours où des fois, genre, ils étaient vraiment... Je posais une question et puis c'était le grand silence. Et du coup, je leur disais, ben, dites-moi, vous voulez qu'on fasse autre chose? C'est trop chiant. Si vous voulez, on change d'exercice. Et des fois, ils me disaient un peu, ouais, mais en fait, on voit pas trop l'intérêt et vers où ça nous mène, en fait. Et donc, je me suis rendu compte que j'explicitais pas assez. Parce que c'était pas clair dans ma tête non plus. Moi, ça n'avait pas été non plus super clair quand j'étais étudiante, où en fait je l'ai mené. Donc maintenant, chaque début de cours, je commence par dire le programme, ce qu'on va faire. Je leur rappelle aussi, surtout en licence, dans 3 semaines, il y aura le partiel. La semaine d'avant, je vous rappelle, on fait un entraînement partiel. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Des questions sur l'organisation du cours Et après, je leur dis, aujourd'hui, le programme, c'est ça. Et au fur et à mesure aussi, les trucs qui les tient un peu éveillés et qui leur fait comprendre un peu l'intérêt d'une activité, je leur dis, vous voyez, cet exercice-là, c'est typique un exercice que je vous demanderai pour le partiel. Ce sera exactement la même consigne. Donc là, vous voyez, ça, c'est intéressant pour ça, ça, c'est intéressant pour ça. Et en fait, quand c'est comme ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils te font plus confiance et qu'ils comprennent quel est l'intérêt, en fait, d'une activité, même si ça les ennuie. Alors.
Je vais vous demander pour l'entraînement partiel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'exemplier que vous avez déjà. Et en fait, on va faire...
Leur première expérience d'enseignement, c'est à l'université. Donc, ils n'ont pas non plus de point de comparaison et ils n'ont pas d'appui sur leur expérience, notamment en gestion de classe. Et donc, c'est des collègues qui vont se poser beaucoup de questions sur la gestion de classe, mais qui ne vont pas les formuler tout de suite aussi. Et donc, c'est pour ça que moi, je propose directement une formation pour les doctorants qui est gestion de classe. Pour qu'ils voient aussi qu'on peut en parler, c'est pas tabou, c'est une vraie problématique à l'université aussi, la gestion de classe.
Du fait de mettre le processeur devant un message, donc si vous avez envie un peu d'aller lire ça, vous voyez au moins comment se construit une argumentation stylistique, c'est pas super long et c'est vraiment assez intéressant, et vous retrouvez des trucs qu'on aura vu en cours. Voilà.
Moi c'est Gaëtte.
Meltem.
Bruno Alexandre.
Moi c'est Pierre.
Moi c'est Aurélien.
Vous êtes en quelle année de licence?
Licence 2.
Vous avez une idée de ce qui vous maintient attentif ou ce qui vous pousse à participer? Est-ce que vous arrivez à identifier en fait les ressorts des de cours qui maintient votre attention, quoi?
Alors moi je sais tout de suite, c'est ouais. Ce que fait la prof qu'on a, c'est-à-dire les ateliers ou alors les interrogations, alors qu'on est censé faire uniquement de la théorie. Et malgré ce fait qu'on est censé faire que de la théorie, elle incite les étudiants à partager leurs ressentis, leurs opinions sur un sujet qu'elle donne. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est participatif malgré le fait que ce soit un cours magistral avant tout.
Sur le cours de la critique, où je leur enseigne du coup l'histoire de la critique littéraire, donc des études universitaires de la littérature. Et dans ce cours-là, j'ai eu une grosse difficulté à leur enseigner l'histoire de la rhétorique et de la poétique parce que c'est compliqué. Et la première fois que j'ai donné ce cours, je me suis rendu compte que le cours durait 2 heures et dès la première demi-heure, je les perdais et que j'ai vraiment passé 1 heure à parler dans le vide et à être incapable de les raccrocher et j'ai compris que voilà, ils ne comprenaient pas ce que je leur disais. Donc je me suis dit bon, manifestement c'est moi le problème parce que j'ai pas réussi à le rendre accessible et c'est par contre cet échec-là qui m'a un peu poussée à reprendre ce cours-là, à transformer le format, à leur faire lire plus d'articles, à clarifier le matériau du cours magistral. Et j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu mieux cette année.
Mais de mon expérience, je trouve que les profs jeunes que j'ai eus, ça se voit qu'il y a énormément de travail derrière les cours. Et c'est assez bluffant à voir, je trouve. C'est vrai qu'on voit, en tout cas chez les profs jeunes, une réelle envie qu'on comprenne et qu'on soit avec eux, et vraiment quelque chose d'actif de leur part, plus que chez les profs les plus âgés.
De manière, je trouve que la manière dont les profs nous transmettent le cours, c'est qu'ils sont plus jeunes. Je trouve aussi, je sais pas, je suis toujours plus attiré par un prof qui a un langage plus commun, plus proche du nôtre aussi. Après, c'est une différence de génération, mais je suis plus, je trouve qu'on est plus à l'aise dans ces cours-là. Justement.
Ouais, mais au final, moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'est que les profs qui étaient un peu plus vieux, ils étaient au final moins scolaires que les profs plus jeunes qui ont une approche en fait, assez scolaire avec des échéances, des petits devoirs un peu tout le temps et beaucoup, comme vous avez dit, beaucoup de cours en fait. Et voilà, une manière un peu exhaustive de faire les choses et d'être sûr qu'on a, on a toutes les informations. C'est peut-être ça qui est un peu différent.
Au début, je faisais beaucoup, je leur donnais des infos théoriques et puis après, on faisait un exercice avec mise en pratique. C'est un peu le truc basique. Et c'est un peu comme ça, je crois aussi, que j'avais fait, même, enfin, dans le supérieur, c'est un peu comme ça qu'on faisait. On faisait un cours de grammaire et puis après, on devait l'appliquer. Et maintenant, c'est en discutant surtout avec des collègues où j'ai des collègues qui m'expliquaient, ils me disaient « Ah, moi, je fais différemment. On commence par un texte, on regarde qu'est-ce qui est bizarre, qu'est-ce qui les interroge. » Et en fait, on part de là et après, je leur donne les points théoriques. Ils disaient « Ça marche toujours mieux quand ils ont l'impression que ça vient d'eux. » Et ça, c'est assez... Je pense que j'aurais pas été capable de le faire dans les premiers cours parce que j'étais pas assez à l'aise, même pour gérer le tableau, des choses comme ça.
Sur les problématiques rencontrées, moi, je rencontre... Il y a je veux faire participer mes étudiants, je veux pas faire que du cours magistral. Et l'autre problématique que j'ai, moi, c'est celle de la légitimité, où des collègues qui viennent et en fait qui sont un peu inquiets sur est-ce qu'ils font bien cours. En général, à partir du moment où on se pose cette question... C'est bon signe.
Moi, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est absentéisme. J'ai des étudiants qui viennent plus en cours, je sais pas pourquoi, et rater les évaluations. C'est-à-dire que j'ai la moitié de ma promo qui passe pas. Et pourquoi? Qu'est-ce que je dois travailler? Et après, moi, j'ai des problèmes. Enfin, moi, ce que je vois aussi le plus souvent, mais parce que c'est mon profil, c'est des enseignants qui viennent me voir en me disant j'arrive pas à faire ça avec l'outil, avec la plateforme. Et en fait, on creuse derrière et on réfléchit aux possibilités. En fait, ça élargit vraiment les possibilités au niveau du scénario pédagogique. Donc, il y a des entrées différentes et des problématiques quand même assez différentes aussi.
Je pense que c'est très important de demander un peu aux autres ce que les autres font. Je pense que si tu rentres dans le monde d'enseignement et tu te sens toute seule, c'est pas un bon signe. En tout cas, tu te sens moins en sécurité. Et je pense que le fait que j'ai d'autres camarades qui donnent le même cours ou qui ont déjà donné ce cours, etc., et je demande leurs conseils, je demande qu'est-ce que je fais pour le partiel, est-ce que c'est trop difficile, on se montre les partiels préparés, etc. Tout ce genre de choses, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, ça m'a rassurée. Des fois, on ne trouve pas des exemples. Des fois, on est bloqué sur une préparation de cours. Et du coup, on se met ensemble et on pioche les exemples l'une de l'autre. Et puis, le cours est préparé. Puis, c'est fait. Voilà. Je pense que c'est très important de se parler, de s'échanger. Voilà.
En mes premières années, du coup, pendant le Covid, en fait, c'était des cours de spécialité, ceux que je donnais. Donc, il n'y avait que moi qui les donnais. Et les autres, j'ai pris un cours, en fait, où c'est un cours de tronc commun. Et il y a en gros 12 groupes de L1 qui ont ce même cours. Et du coup, on était une dizaine d'enseignants et d'enseignantes à donner ce même cours. Et il y avait une brochure de cours. Donc déjà, avec des exercices, déjà, tous les trucs théoriques. Donc, j'avais pas à m'inquiéter à ça. Et j'avais juste à m'inquiéter de comment je vais leur expliquer ce qu'il y a dans la brochure. Et ça, ça a été vraiment trop bien. Et j'avais des amis doctorantes comme moi qui donnaient le même cours. Et donc, en fait, on s'échangeait nos diapos. Et du coup, on pouvait s'inspirer des cours des autres. Il y en avait une qui disait « Ah, moi, j'ai fait tel exercice, ça a super bien marché. Bah, du coup, moi, j'ai essayé de faire la même chose ou de l'adapter, en fait. » Mais du coup, on pouvait vraiment discuter concrètement de ce qu'on faisait.
Dans le supérieur, la salle de classe, c'est une boîte noire. Là, on commence à, nous, réussir à convaincre des collègues de nous accueillir en classe. Mais vraiment, nous, notre action, c'est une action de conseil. Moi, j'aimerais que les collègues soient plus amenés à nous faire venir en classe pour avoir ce retour-là, parce qu'en fait, jamais dans leur carrière, que ce soit au début, dans leur premier pas d'enseignant, ou alors au contraire, au fur et à mesure de la carrière, ou au moment des passages de grade, des passages de maître de conférence à professeur des universités, ils ont l'occasion de parler de leur pratique pédagogique. Donc ça pourrait être intéressant d'en discuter, mais sans que ce soit non plus quelque chose de contrôlant. Et en fait, il y a une grande peur à l'université quand on parle d'évaluation, et par exemple c'est le cas quand on parle d'évaluation des enseignements par les étudiants, que nous on conçoit vraiment comme un outil de développement professionnel et de un indice de ce qui se passe en cours, parce qu'en fait il y a le retour des étudiants, c'est une information intéressante, mais il y a énormément d'autres informations qu'on prend pendant la classe, dans les discussions avec les étudiants, dans les résultats d'évaluation, enfin les travaux qu'ils fournissent, quoi. Et on essaye vraiment de dire, en fait, le retour des étudiants, c'est quelque chose d'intéressant pour vous. Mais rien que ça, c'est très, très difficile, en fait, parce qu'il y a une crainte très importante du contrôle de ce qui est fait en cours et du fait que ce contrôle puisse aboutir à une forme de coercition sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, sur la façon de faire cours, avec cette idée qu'on obligerait à abandonner le cours magistral, etc. Ce qui n'est pas du tout, nous, ce qu'on
véhicule. Parce qu'ils respectent trop les quatre règles-là. il y a pas d'intérêt. Enfin, c'est creux, quoi, c'est vide.
Oui, c'est ça. Là, en fait, on est vraiment dans du respect nickel de chacune des maximes. On a vraiment un échange qui fonctionne très bien. Mais au niveau dramatique, ça crée un effet assez comique. Puisque finalement, on se demande un peu...
Donc moi, je m'appelle Nolwenn, du coup, j'ai 30 ans. Je suis en master MEF, en reprise d'études. À la base, j'ai un master en biologie. J'ai enseigné le français, les maths, et je me suis dit, il faudrait quand même passer le concours. Donc j'ai repris les études pour passer le concours.
Donc moi, c'est Mounia, j'ai 20 ans, et je suis en master MEF M1 lettres modernes. Et avant, j'étais en licence de lettres classiques. Moi, un professeur qui m'a marqué, c'était un professeur que j'ai eu en première année en prépa. Et en fait, il pouvait parler de choses très, très savantes, mais avec une forme parfois qui était proche de celle qu'on a dans une discussion, en fait. Comme on pourrait parler d'un livre qu'on a lu avec un ami. C'est pas forcément lié au caractère récent ou non, en fait, du travail de recherche. C'est plutôt lié à une faculté, en fait, à savoir faire des allers-retours entre une position savante et érudite qu'on acquiert quand on fait un doctorat, une thèse, et savoir s'adapter en fait au public qui est devant soi, tout en maintenant en fait des exigences. Mais je saurais pas vraiment expliquer en quoi ça consiste.
J'aime bien quand les enseignants font des digressions parce qu'ils sont pas forcément spécialistes de ce qu'ils nous enseignent, mais par exemple. Là, on a un cours sur Rimbaud, donc l'auteur Arthur Rimbaud. Et l'enseignante n'est pas forcément une spécialiste de Rimbaud. Par contre, on sait qu'elle a fait une thèse sur le tatouage au 19e siècle parce qu'elle nous en a longuement parlé par rapport à un poème de Rimbaud où le personnage décrit un tatouage sur la hanche. Et c'est vrai qu'à ce moment, enfin moi j'ai trouvé ça passionnant à ce moment-là parce que voilà c'est des
Vénus Anadyomène, ouais.
C'est souvent marquant, voilà ces envolées que vont faire les professeurs pour vraiment se rapprocher de leur dada en fait, de leur où ils vont voilà moi dans mes recherches j'ai fait ça, à ce moment-là j'ai étudié ça, j'ai publié tel livre, ça parle de ça. En fait quand ils digressent justement parce que alors ils nous demandent d'enseigner la littérature du 19e mais ils sont plutôt spécialistes d'une chose précise du 19e. Et quand ils font une digression pour vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce qu'ils font, ça, c'est intéressant.
Moi, je sais que je m'en sers assez peu de ma recherche dans mon enseignement, parce que ça s'y prête peu, mon sujet de thèse s'y prête peu. Ça me sert un petit peu dans le cours d'histoire de la théorie et de la critique, parce que j'ai un cours qui est sur mon sujet de thèse. Et en fait, principalement, ça me sert à avoir un recul critique par rapport à ce que j'enseigne. Et en fait, moi, c'est ça que j'essaie de leur transmettre dans tous mes cours. C'est, comme j'ai un sujet qui est assez réflexif sur les études littéraires, c'est d'essayer de les pousser à avoir cette réflexivité-là et de leur dire, en fait, ce qu'on vous enseigne, c'est un canon, c'est une sorte de dogme, et il faut pouvoir y réfléchir, il faut pouvoir y répondre dans le cadre d'exercices universitaires, parce qu'on ne vous demande pas, dans le cadre d'une dissertation, de dire, de toute façon, les études littéraires, c'est nul, et je refuse de m'y plier. Mais c'est important de savoir qu'on s'y plie. Et c'est un peu ça que j'essaie de leur enseigner. Comme le savoir est produit par des individus, c'est pas un tout sacralisé qu'on leur retransmet sans y réfléchir. Mais comme on a accès aux coulisses, je trouve ça aussi important de eux leur donner accès aux coulisses. Pour pas que eux-mêmes sacralisent ce qu'ils sont en train de faire, ce qui, je pense, n'est pas leur défaut principal, hein, par ailleurs.
Ça m'arrive, en fait, de enrichir mon cours avec les corpus de ma thèse, et souvent ça intéresse les gens, parce que moi je travaille sur les slogans politiques et les écritures sauvages, tout ça. Du coup, j'ai aussi travaillé sur les graffitis sur les portes de toilettes dans l'ancien campus. Et du coup, souvent je mets des exemples vraiment de la vie quotidienne pour moi, quand en fait ce sont des exemples des corpus, des morceaux de texte que les étudiants ignoraient. Qu'en fait, ça a un lien avec la linguistique ou c'est un lien avec la littérature. Et c'est ça qui, en fait, c'est ce déclenche qui va les aider à vraiment entrer dans le domaine.
En fait, la différence fondamentale, et qui est une question qui est récurrente quand on forme ou qu'on accompagne les enseignants, c'est que dans le supérieur, on est censé faire comprendre aux étudiants que c'est jamais ni tout noir ni tout blanc. Et que ce qu'on enseigne, c'est des savoirs qui sont des savoirs en mouvement.
Et tu as un public enseignant qui est aussi complètement différent. C'est-à-dire que tu as un enseignant qui est vraiment expert de sa matière, qui a passé des années à se consacrer à un sujet, qui est encore dans la recherche, qui est encore en train de se questionner. Donc c'est aussi comment est-ce que je change mon discours d'expert pour un discours de vulgarisation, pour que ça devienne un discours d'expert aussi. En fait, il y a plein de questionnements, je pense, qui arrivent surtout pour les doctorants, qui, j'imagine, passent de leur thèse, où je me pose des questions en termes de recherche, à j'ai un public devant moi, comment est-ce que je transforme ce que je sais ou ce que je suis en train de rechercher à je vise les compétences, je vise quelque chose, je veux que mes étudiants ressortent avec quelque chose, et comment je fais ? On recherche cette expertise. C'est-à-dire que dans l'enseignement supérieur, il y a des disciplines, il y a des formations spécialisées pour former des experts. Et que c'est pour ça que les enseignants sont experts de la matière et qu'on leur demande d'intervenir. Pour les enseignants qui sont experts de leur matière, vraiment, la priorité, elle est sur comment est-ce que j'enseigne ce que je sais à des personnes qui débutent. Et ça, cette question-là, tout le monde ne se la pose pas. Il y en a qui vont se la poser parce qu'ils vont rencontrer des fois des situations qui sont difficiles pour eux, et d'autres personnes qui estiment que c'est à l'étudiant de s'adapter. Moi, personnellement, je pense que si on ne fait pas cette transformation-là de ce que je sais, c'est ça, je suis expert, mais comment est-ce que je change tout ça, ou comment je l'organise, ou comment je le séquence pour arriver à l'apprentissage des étudiants. Personnellement, je pense que c'est difficile.
Cette approche, on a tendance, nous, à la connaître. Ça fait partie de notre imaginaire. Mais ça a quand même été profondément révolutionnaire quand il l'a pensé, au sens de ça a transformé la manière dont on pensait la société. Et il faut quand même avoir à l'esprit que ça n'allait pas du tout de soi, cette manière de penser le monde, l'histoire.
Déjà, je commençais à faire la thèse parce que j'aime bien la recherche. Que la recherche. Pas d'autre chose à côté. Et je me suis dit, peut-être je ne serai pas enseignante dans l'université dans le futur, mais j'aimerais bien toujours faire la recherche pour toute la vie. Mais du coup, après ça, je me suis dit, voilà, peut-être je suis un bon prof en fin de compte. Et je commence à aimer en fait ce travail, cette vie en tant qu'enseignant.
Si tu m'avais demandé si j'aimais enseigner il y a 3 ans, je t'aurais dit non. Maintenant, ça se passe mieux parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime bien ce contact et ce rapport aux étudiants.
Moi, j'adore enseigner. Ça me plaît plus que la recherche. Et c'est ça qui me nourrit. Les horaires en ce moment sont difficiles parce que c'est des horaires qui sont fatigants. Et que mine de rien, donner cours, c'est fatigant. Mais oui, je trouve que c'est la recherche, ça, je pense que c'est des choses qui sont souvent dites, mais c'est très solitaire. Et du coup, de se retrouver face à une classe qui est potentiellement intéressée par ce qu'on dit, qui est dynamique, ça remet un peu de concret, un peu d'échange dans une pratique qui sinon est assez isolante.
Bon,
et
ben, je vous dis bon courage pour le rêve de la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des questions. Et sinon, à la semaine prochaine.
Merci à Zhao Chengyang, Perrine Beltran, Zoé Perrier, Justine Cabrero et Morgane Maridé, ainsi qu'à l'Université Sorbonne Nouvelle de m'avoir accueilli pour cette journée stimulante. Merci aux étudiantes et étudiants de m'avoir permis de les accompagner en cours et d'avoir répondu à mes questions. Et merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission.